Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria, midi 30. Nous sommes toujours ici, Porte de Versailles, Parc des Expositions, pour suivre cette nouvelle édition du Salon des maires et des collectivités locales, et cela depuis mardi, aujourd'hui dernière journée. Nous recevons encore une fois de nombreux invités ici, pavillon 3. Nouveaux invités que je m'empresse de vous présenter, Jean-Luc Salaberry, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef du département numérique de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. On parlera tout à l'heure de ce qu'est concrètement la FNCRR. Guillaume Métivier, bonjour.
Bonjour.
Délégué territoire, club numérique et territoire. Et je vais essayer de m'entraîner sur le sigle pour ne pas les, mal l'écorcher. Est-ce qu'on peut rappeler justement ce qu'est la FNCCR, quelles sont les différentes missions de la fédération ?
Oui, la FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on fédère les collectivités qui font des marchés publics, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de l'eau et du numérique. Mmh. On fédère les collectivités, tout type de collectivités, quelles que soient les strates de collectivités. La spécificité, c'est plutôt la thématique.
Okay.
Et donc, on fédère les départements, les régions, les syndicats, les métropoles. Voilà. On n'a pas d'exclusive en la matière. Nos sujets, c'est les sujets environnementaux et qui est finalement, c'est les sujets d'actualité.
Alors justement, est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? On va parler dans un instant, évidemment, du guide. Mais vous parliez des différentes thématiques. Alors est-ce qu'on peut en citer quelques-unes ?
L'une des thématiques, c'est la production d'énergie renouvelable, par exemple. Hein. Beaucoup d'énergie sont produites maintenant par les collectivités territoriales qui ont créé des sociétés d'économie mixte, qui mettent en place des projets panneaux solaires, éoliens et autres. Et donc, il y a une part active donc, du service public dans la production d'énergie renouvelable. Tout le monde comprend tout l'intérêt et toute l'utilité, évidemment, de tout ça. Vu les évolutions des tarifs de l'électricité, par exemple, c'est pas négligeable d'avoir une électricité auto-produite par les collectivités. Je pense que c'est un élément clé de la stabilisation des prix. Mais dans le secteur de l'eau, c'est aussi l'enjeu de la production d'eau potable sur l'ensemble du territoire à des tarifs à peu près péréquoués. C'est pas tout à fait péréquoués, mais enfin à peu près péréquoués et avec des qualités d'eau potable qui sont pas toujours évidentes à mettre en œuvre compte tenu évidemment aujourd'hui des différentes situations. De pollution dans les nappes phréatiques. Donc il y a des enjeux nouveaux au quotidien dans tous ces secteurs d'activité. Et il faut à la fois produire, mais produire une eau potable saine. Et ce n'est pas toujours facile. Voilà. Et puis il y a d'autres sujets comme l'éclairage public, par exemple, les bornes de recharge électrique, la gestion des déchets.
Des vrais sujets.
Tous les sujets qui concernent généralement les collectivités territoriales. Nous, on appelle ça les sujets un peu régaliens des collectivités territoriales.
Ouais, ouais. Voilà. Et des sujets, évidemment, qu'on aborde en long, en large. Exactement. Sur ce salon.
Exactement.
Le guide pour un numérique éthique, souverain et sûr, lancé aujourd'hui sur le salon des maires et des collectivités locales, coporté par le club numérique et territoire. Pour quelle raison, d'ailleurs, cette association ?
Alors, le Club Numérique et Territoire existe depuis 2016.
Ouais.
C'est une émanation de l'agence Compublic qui réunit en fait un certain nombre d'entreprises engagées sur des sujets d'intérêt général. Donc, Jean-Luc, on a rappelé quelques-unes tout à l'heure. Et c'est vrai que sur les liens avec la FNCCR, nous, c'était dans les gènes au départ sur des sujets de décarbonation des mobilités. Donc, vous aviez parlé tout à l'heure des infrastructures de recharge. C'est comme ça que j'ai mis le doigt moi sur le numérique et je suis pas un grand spécialiste du sujet et l'idée c'est justement une association pour vulgariser ces sujets d'intérêt général qui ont fait que c'est moi qui vous parle aujourd'hui alors que c'est pas moi le spécialiste du sujet du numérique parce que notre rôle commun c'est de réussir à faire de la pédagogie sur ces sujets pour un numérique souverain, sûr et éthique.
Et il y a un vrai besoin de faire de la pédagogie sur ces sujets-là, notamment.
Oui, effectivement, nous, à la FNCCR, on sent bien qu'il y a un besoin. D'abord, lié aux circonstances du moment que l'on vit. On voit bien qu'il y a des attaques de cyber, des cyberattaques un petit peu dans tous les territoires, soit les collectivités, les hôpitaux, les services publics, mais aussi les entreprises. Hein. Et donc, il y a besoin d'évangéliser, entre guillemets, l'ensemble des acteurs pour que tout le monde soit conscient des risques encourus dans ce genre de situation. Donc, on avait besoin, nous, FNCCR, d'accompagner nos membres, nos adhérents sur ces sujets-là. Nous avons plus de 800 membres issus de tout le territoire, hein, national, métropolitain et même outre-mer. Mmh. Et donc, nos adhérents des collectivités territoriales ont besoin d'être accompagnés sur ce sujet de la cybersécurité. Et pour le coup, le travail produit à travers ce guide, c'est un travail finalement d'éveil politique.
Okay.
Ce n'est pas un guide technique, hein, parce que des guides techniques, l'ANSSI en a fait un, l'AMF en a fait un.
Oui, ce n'est pas ça qui manque.
Ce n'est pas ça qui manque, voilà. Mm. Ce dont on a besoin, c'est un guide d'éveil politique. Mm. Pourquoi ? Parce que qui décide dans les collectivités territoriales ? C'est les élus.
C'est le politique.
C'est les élus. Mm. C'est les élus. Alors, il n'y a pas que les élus, il y a aussi les DGS, mais c'est souvent quand même en relation avec les élus. Mm. Voilà. Et je crois que c'est important quand même d'éveiller les consciences des élus qui prennent ces décisions, à rendre prioritaire probablement cet enjeu de la cybersécurité.
Oh, ils en ont tous pris conscience, là, quand même.
C'est pas sûr.
C'est pas sûr.
C'est pas sûr. Non.
D'accord.
Non, non.
On est en 2024,
non,
mais
souvent, c'est quand on est déjà dans le mur qu'on se dit qu'il va falloir mettre la ceinture de sécurité.
Ouais,
et c'est un peu tard.
C'est un peu tard. C'est quoi les différentes thématiques qui sont abordées donc, dans le guide ?
Alors, il y en a trois essentiellement.
Ouais.
La souveraineté numérique, super important, on le verra. On est sous l'égide de lois extraterritoriales, notamment en provenance des États-Unis, qui se permettent de pouvoir aller chercher les données potentiellement dans le data center, même s'il est hébergé chez nous, parce que le capital est au moins en partie détenu par une entreprise américaine.
Donc ça pose un vrai problème, ça.
Ah, il y a un vrai sujet, parce que l'essentiel du marché aujourd'hui des data centers, en bon français, c'est justement des Américains, et ils se sont arrangés pour avoir une position plutôt monopolistique sur le sujet.
Alors, donc la souveraineté pour première thématique.
Voilà. Le côté sûr, donc Jean-Luc en parlait, la cybersécurité, très important, et vous le disiez, a priori, il y a un certain nombre d'élus qui sont déjà sensibilisés sur le sujet, mais il en reste qui ne se rendent pas compte de ce qu'on peut perdre quand on perd ses données ou quand on se fait attaquer. Donc un vrai sujet, la sécurité. Et puis le dernier, c'est le côté éthique du numérique. Et donc il y a vraiment ce sujet de respect de la vie privée, par exemple, ou même d'avoir un numérique qui puisse être compatible avec les enjeux climatiques.
Rapidement, comme ça, on peut citer un exemple récent où il y a eu peut-être une cyberattaque dans une collectivité locale.
Oui. Il y en a de multiples. Hein. Ouais. Je ne vais pas citer de noms.
Non, ça ne sert à rien.
Je ne vais pas les cibler.
Mais de dire ce que ça a représenté.
Oui, bien sûr. Bah, ça a représenté une agglomération qui est assez connue, moyenne, on va dire, mais qui est très réputée, puisque c'était l'agglomération d'un maire qui a été ministre tout récemment, mais qui ne l'est plus, qui a été hacké et qui a perdu effectivement la plupart de ses serveurs. Les musées ont été ouverts sans pouvoir faire payer, parce que sinon ils n'ouvraient pas. Enfin, c'était une désorganisation complète des services publics. Donc c'est un enjeu. L'attaque était probablement ciblée, non pas pour faire un gain spécifique, parce que les collectivités n'ont quasi pas les moyens de payer des rançons par rapport à des hackers.
Mais c'est quoi ça ? C'est presque pour dire qu'on en est capable, en fait ?
C'est pour dire qu'on en est capable ou pour donner des leçons.
Ok.
Pour donner des leçons. Et donc, on n'a pas de leçons à recevoir dans les collectivités territoriales. Nous, notre boulot, c'est le service public. Mmh. Voilà. Donc, on a besoin de défendre les services publics. Ça, c'est un élément essentiel. Et je crois que, conscient de ce risque d'être des cibles, il faut se parer, évidemment, de ce genre de situation.
J'ai peut-être un exemple complémentaire qui a émané des ateliers, en fait, qu'on a organisés pour rédiger ce guide. Et je me demande si ce n'est pas toi qui nous l'avais donné, Jean-Luc. c'était justement une mairie qui a simplement mis un drapeau ukrainien sur son site internet et du coup qui s'est fait attaquer. Donc quand on disait c'est pour passer des messages, ça illustre très très bien. La guerre est quand même porte de l'Europe, si ce n'est dans l'Europe.
Oui, c'est les deux types d'attaques aujourd'hui, en tout cas. Il y a évidemment les clubs de hackers qui font de l'argent. Hein. Aujourd'hui, la criminalité du hacking gagne plus d'argent que la drogue.
C'est un vrai business. Ouais.
Donc, au niveau mondial. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui payent. C'est ça que ça veut dire.
Clairement, voilà. Évidemment.
Mais les collectivités ne peuvent pas payer parce que les collectivités, elles sont obligées de faire des marchés publics pour pouvoir dépenser de l'argent. Donc, elles ne peuvent pas payer. Donc, soit, quand elles sont confrontées à une situation de ce type, elles se font détruire leur base de données, forcément, puisque une fois que...
Enfin, c'est tout.
C'est tout, mais c'est grave.
C'est grave.
Et donc, ça crée une incompétence. Tout à l'heure, notre vice-président à la FNCCR disait que sa structure s'était faite hacker. Ils ont crypté toutes les données. Ça leur a coûté 300 000 euros pour remonter l'activité à 100%. 300 000 euros pour une collectivité, c'est pas quand même une petite somme.
C'est clair.
Donc, ça justifie quelque part, peut-être, ne serait-ce que l'investissement de la moitié pour sécuriser ces systèmes d'information. Voilà.
En quoi le guide va venir contribuer finalement à l'adoption d'un numérique propre et surtout aux valeurs qui sont les nôtres? Alors, les valeurs françaises, évidemment, mais au-delà, les valeurs en Europe, quoi.
Alors, l'idée du guide, c'était vraiment de pouvoir valoriser les expérimentations et les expériences et des élus et collectivités et d'entreprises de nos territoires qui portent ces valeurs. Donc, l'idée, c'est non seulement de pouvoir partager les bonnes pratiques. Donc, c'est sûr qu'une collectivité qui, à l'échelle de son territoire, va mettre en œuvre, par exemple, des données souveraines ou des appels d'offres regroupés pour pouvoir faire appel à des solutions techniques pertinentes, on a tout intérêt à le faire savoir.
Ouais.
Parce que ce n'est pas celle qui lui arrive en premier dans son bureau quand elle est démarchée directement par d'autres entreprises. Et puis, il y a aussi des petites PME ou des PME naissantes, on va le dire comme ça, des scale-up dans le langage très français, qui parviennent très bien à exporter leurs innovations autour d'un numérique souverain, éthique et sûr, mais qui ont beaucoup de mal à percer en France sur nos marchés publics. Et l'idée, c'est vraiment justement de donner connaissance aux élus de l'existence même de ces entreprises et de ce qu'elles proposent pour pouvoir porter ces valeurs. Jean-Luc, tu as sûrement...
Oui, je pense que le terme valeur est un terme essentiel. En tout cas, c'est un indicateur essentiel dans la mutation numérique de notre société qui est en train d'arriver. On voit bien qu'il y a, des barbares dans cet écosystème. D'un côté, il y a les hackers, effectivement, qui viennent agresser pour des rançons ou pour dénigrer ou pour fausser les informations. De l'autre côté, on voit aussi les transhumanistes qui prennent le pouvoir en utilisant le numérique et les élections présidentielles aux États-Unis, par exemple. Ces courants de pensée, finalement, sont assez similaires. L'un et l'autre sont là pour attaquer la démocratie. Et je crois que dans ces enjeux-là, c'est un vrai sujet de valeur, effectivement, où on doit... au niveau des États et au niveau des collectivités territoriales, puisque en France, c'est décentralisé, donc les collectivités ont une part des compétences de l'État. Les collectivités ne font que gérer des compétences qui, initialement, étaient au service de l'État.
Oui, oui.
Leur mission, comme celle de l'État aujourd'hui, c'est de faire front commun sur ces barbares, de manière à pacifier cet environnement public. Parce que l'Internet, c'est un environnement public. On a le besoin de pacifier cet environnement public et de montrer aux citoyens que le service public, c'est encore quelque chose qui veut dire qu'il y a de la sécurité, qui veut dire qu'il y a de la confiance. C'est un enjeu politique. C'est un vrai enjeu politique. Et ce n'est pas vrai que pour notre pays. C'est vrai pour toute l'Europe.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Donc c'est un choc de valeur, effectivement, par rapport à d'autres pays qui n'ont pas les mêmes visions de la démocratie que nous.
Aujourd'hui, quel soutien la FNCCR offre-t-elle aux collectivités pour justement mettre en œuvre les recommandations qui sont préconisées dans le guide ?
Bah, on les accompagne évidemment dans la mise en œuvre, on va dire, de premier niveau, c'est-à-dire qu'on fait de la stratégie avec elles. On n'est pas des maîtres d'ouvrage, dans, ils ont des acteurs de proximité et on les invite, on les incite surtout à utiliser les prestataires de proximité. Ce qu'évoquait tout à l'heure, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'était l'enjeu d'avoir évidemment autour des collectivités, dans leurs espaces territoriaux, un tissu économique qui soit adapté à tous ces enjeux et qui soit prêt à répondre en tant que prestataire de service à tous ces enjeux. Et je crois que je fais le lien avec juste ce que je viens de dire sur les valeurs. Les valeurs, ce n'est pas vrai que pour les services publics. Les entreprises aussi peuvent avoir des valeurs. Et je crois que c'est très important d'avoir des valeurs communes entre les entreprises de proximité et les collectivités territoriales pour défendre ces enjeux ensemble. Je crois que il n'y a pas de différence sur ce point-là. Et je pense que c'est
vraiment... Il n'y a même pas de sujet là-dessus.
Il n'y a même pas de sujet là-dessus. Ouais. Voilà.
Je pense que le vrai intérêt d'associations d'élus comme la FNCCR, et au-delà de ce que tu viens de décrire, Jean-Luc, c'est très important, en fait, au travers de ce guide, de vulgariser ces enjeux. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est à l'échelle des valeurs d'une démocratie. Et on est quand même sur des enjeux d'actualité, tu le rappelais. On est au lendemain des élections américaines qui sont un petit peu inquiétantes sur ces sujets. On a la guerre aux portes de l'Europe. Et nous, il faut qu'on arrive à se défendre avec des entreprises qui portent ces valeurs et sur lesquelles c'est important qu'on puisse avoir ne serait-ce que la connaissance que ça existe.
Donc. Vous parliez tout à l'heure parmi les thématiques, les pratiques aussi qui étaient bonnes à utiliser. On peut citer par exemple, vous parliez de souveraineté aussi, on peut peut-être parler des data centers souverains aussi qui soient localisés en Europe avec des fonds français et européens. Ça aussi, c'est important. C'est une pratique qu'il faudrait mettre, qu'il faudrait respecter. Ouais.
Oui, oui. Alors nous, on est à la FNCCR, on est convaincus qu'il faut avoir évidemment des data centers et toute la partie interne du data center, tout l'aspect cloud, ouais. C'est-à-dire que toutes les couches, si j'ose dire, entre ouais. la partie physique, les mètres carrés jusqu'à la partie logicielle, doivent être européennes, souveraines et quelquefois même françaises, si possible. Hein. Nous, on est un peu franchouillards de notre côté. Hein, oui. Voilà.
Qui ne l'est pas.
Exactement.
Je pense que les Allemands sont...
Exactement. Tout le monde fait ça en ce moment. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu. Il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, on voit l'actualité des câbles sous-marins sur lesquels passent juste au-dessus des bateaux chinois sont coupés par inadvertance. On voit que SpaceX envoie des satellites de communication au-dessus de l'Europe qui servent à la guerre ukrainienne, mais qui ne servent pas que à la guerre ukrainienne, qui ne passent pas sous la coupe des interconnexions et notamment des lois territoriales liées par exemple à la nécessité que les services de sécurité d'un pays puissent avoir accès aux télécommunications. Ça veut dire que l'État français n'a pas accès au SpaceX qui passe au-dessus de la France et qui transite des communications. Donc on peut très bien imaginer que des réseaux d'espions puissent utiliser ce réseau sans qu'on puisse l'intercepter.
Et ce n'est pas de la science-fiction.
Et ce n'est pas de la science-fiction, exactement. Donc on est dans une période de l'histoire, tout s'accélère. Il ne faut pas être naïf. Il faut être conscient des enjeux et conscient des technologies. Et c'est avec cette conscience qu'on sera capable de se défendre collectivement.
Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Le temps passe très vite et le sujet est évidemment passionnant. C'est quoi le rôle de la Fédération dans la formation continue des membres des collectivités locales et quel type de programmes sont proposés justement pour y parvenir ?
Oui, alors nous, effectivement, on a mis en place un programme de formation pour toutes les collectivités. C'est pas, pour le coup, c'est une action qui est ouverte à toutes les collectivités et seulement les collectivités, mais pas forcément que nos adhérents. Donc ça, c'est véritablement un choix. On travaille sur tous nos domaines thématiques. On a un peu cette spécificité, c'est qu'on a une telle expertise technique en interne que c'est aussi une façon de la valoriser et de montrer un petit peu quelle est notre expertise. De ce point de vue-là, on n'a pas de concurrence, si j'ose dire, sur le sujet, puisque on est sur des sujets très pointus à chaque fois. On travaille sur des sujets très pointus. Que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'eau, ou que ce soit dans le numérique, on fait des formations très, très spécifiques par rapport aux projets techniques, en l'occurrence, qui sont très ciblés. Dans le numérique, pour quelques exemples, on fait un module d'initiation à la cybersécurité, mais en intégrant évidemment tous les enjeux que la FNCCR prône, c'est-à-dire les enjeux de la mutualisation, de l'interopérabilité des systèmes, de la protection des data. C'est vraiment des formations aussi avec un point de vue. Si vous voulez, on a la FNCCR, c'est pas uniquement des modules de formation un petit peu neutres. Il y a aussi un point de vue, une prise de position. Et on le défend, quoi. Ouais, voilà, ça fait partie du jeu.
Si je puis me permettre, la FNCCR fait aussi un début de formation avec la publication de ce type de guide, puisque l'objectif,
bien
c'est
sûr,
vraiment
bien sûr
sensibiliser, vulgariser. On a quand même 66 pages pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, avec un prisme, on l'a dit, pour un numérique souverain, sûr et éthique. Et ça me semble être un début de formation.
Alors ce guide, évidemment, il s'adresse aux collectivités, quelles qu'elles soient. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, vous adressez à toutes les collectivités. Comment elles se procurent ce guide? Comment ça fonctionne? Il y a un process particulier?
Il est très simple et il est très numérique pour le coup. On a mis en ligne ce matin, donc il a été lancé ce matin sur le Salon des Maires à 11h. Une synthèse et la possibilité donc de télécharger
sans crainte
ce guide. L'idée, c'est qu'on puisse l'envoyer également à tous les adhérents de la FNCCR, et plus largement on fera également, côté club numérique et territoire, une diffusion la plus large possible. On va même aller avec notre bâton de pèlerin expliquer un peu le contenu de ce guide et pouvoir répondre aux éventuelles questions. Une sorte de formation aussi, finalement.
Bien sûr.
Et la première étape aura lieu dans le Morbihan, à Rochefort-en-Terre, le 13 décembre prochain, pour une première rencontre régionale du Club Numérique et Territoire avec la FNCCR et Morbihan Énergie.
Oui, effectivement, nous, à la FNCCR, on va le diffuser à tous nos membres, mais pas que. On a un fichier aussi de toutes les collectivités avec que l'on côtoie, évidemment. Ça va être une diffusion générale, très clairement. C'est un enjeu qui touche tout le monde, donc on est très sensible à ça. Je crois que derrière ce sujet, c'est aussi l'enjeu de la transposition de la directive NIS en matière de cybersécurité, qui va nous tomber dessus pour 2025, puisque notre vice-président est rapporteur au Sénat. C'est Patrick Chaise qui est rapporteur au Sénat de ce projet de loi sur la partie cyber. Et évidemment, on va faire le service après-vente du texte de loi, puisqu'on va discuter avec l'ANSSI en direct sur la transposition, certes législative, mais aussi ensuite les décrets d'application, les arrêtés. C'est là que tout va se jouer. C'est dans les arrêtés et les décrets. Et on en a pour une année quasiment de 2025 à mettre tout ça en œuvre. Donc ça va contribuer, si j'ose dire, à cette évangélisation qui était prônée par CompPublic.
Ok, et donc on rappelle que NIS 2, c'est une directive européenne qui vise à renforcer, c'est ça?
C'est une directive européenne qui a été initiée par la France, il faut le rappeler, parce que la France a un sens de la souveraineté qui est pas neutre. Et M. Breton, qui était commissaire européen, qui ne l'est plus depuis peu, mais avait initié ce sujet. Et c'est l'émergence dans tous les pays européens d'une agence de la cybersécurité qui, comme par hasard, nous, on en a une, c'est l'ANSSI. Et en fait, c'est un copier-coller. L'idée, c'était de reproduire des ANSSI dans tous les pays européens, de manière à ce que, avec évidemment les procédures qui vont être mises en œuvre, mais avec un régulateur, si j'ose dire, par pays, qui ressemble à l'ANSSI un peu dans tous les pays européens. Donc, c'est une bonne chose. Parce que, honnêtement, sans l'ANSSI aujourd'hui, si on ne l'avait pas, on serait mal.
Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et puis on rappelle que ce guide donc est disponible, on peut le télécharger et qu'il a vocation évidemment à être diffusé et puis à évoluer aussi, j'imagine, en fonction des différentes directives.
Ça va toi.
Grand merci à vous, merci également à vous de votre fidélité. Je rappelle que cette émission est disponible sur notre site internet, en téléchargeant également notre appli, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci de votre fidélité et à très vite. Salut.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 19 au 21 novembre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria.